Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre libre antenne qui vous emmènera en direct, comme chaque soir, jusqu'à 1h du matin. Alors soyez les bienvenus sur Europe 1 et je suis, au nom de toute l'équipe de la libre antenne, heureux de passer ces 2h30 avec vous. Hier, nous avons entendu deux tranches de vie, deux sensibilités différentes. D'abord celle de Robert, qui nous a parlé du pardon et de quel pardon s'agissait-il ? Celui accordé aux assassins de son père. Un témoignage qui vous a beaucoup marqué, qui vous a même irradié, je dirais, puisque si je me réfère à vos nombreux messages envoyés au 739-21. Et puis il y a eu celui de Nathalie, séparée, une maman séparée de ses deux fils, victime de son ex-mari et de sa nouvelle compagne, qui eux ont visiblement choisi de mettre leur vie au service de la destruction, en tout cas briser ses vies, la vie de ses enfants, la vie de cette maman, juste au nom de la haine, de la colère. Alors, ces deux témoignages étaient totalement différents l'un de l'autre, deux histoires de vie comme nous pouvons en connaître, nous aussi, dans notre quotidien, deux histoires qui nous ont parlé, car on y évoquait tant de choses que nous vivons et que nous affrontons dans notre quotidien, chers amis. Alors, bien sûr, votre vie, à vous, vous le savez, nous intéresse. Vous venez ce soir, vous aussi, parler de vous, car vous pouvez vous confier à nous, vous le savez. Et puis, se confier, c'est toujours quelque chose qui fait beaucoup de bien. Alors, soyez les bienvenus sur la libre antenne, sur votre radio, sur Europe 1. Vous verrez, vous confier, ça fait extrêmement de bien pour ceux qui n'en sont pas encore intimement persuadés. Pour cela, vous composez le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Vous pouvez aussi nous écrire au 739-21, suivi du mot « nuit », écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Notre adresse mail, lalibreantenne@europe1.fr. Et puis toujours notre groupe de parole Facebook, Olivier Delacroix, Sabine Marin. Sur lequel vous êtes déjà très nombreux et vous êtes chaque jour plus nombreux. Donc encore merci pour votre confiance et votre fidélité. Et puis nous vous attendons toujours plus nombreux. Hein. Cette libre antenne du mardi 21, eh bien qu'en dites-vous ? Allons-y, c'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Kevin au 39-21. Bonsoir Kevin.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Ça va et vous-même ?
Bah écoutez, moi ça va. Il est 22h34 et je suis toujours très content de commencer. Voilà, je me réjouis à chaque fois. Alors dites-moi ce qui vous amène, Kevin.
Eh ben, moi je vous ai appelé, enfin je vous appelle, pardon, par rapport au reportage qui a eu ce dimanche soir sur M6 concernant l'aide sociale à l'enfance.
Oui.
Et je voulais simplement apporter modestement mon témoignage pour y avoir vécu de l'intérieur durant près de 11 ans.
Alors, comme pas mal de nos auditeurs, Kevin, moi je n'ai pas vu ce reportage dont vous parlez et je pense qu'il y a certains auditeurs qui ne l'ont pas vu. Ce reportage parlait de quoi et évoquait quoi exactement ?
Bah, il parlait principalement des défaillances de l'aide sociale à l'enfance.
Oui.
Les carences éducatives et puis les formes de. Enfin, il y avait des histoires de viol, formes de maltraitance, enfin tout un panel. Et je voulais simplement moi parler moi de ce que j'ai pu y vivre durant 11 ans dans multiples structures et des familles d'accueil quoi.
D'accord. Donc vous avez été placé à l'âge de 9 ans, c'est
ça ? À l'âge de 9 ans, oui.
D'accord. Dans quel contexte vous vous êtes placé à l'époque?
Pour faire très simple, j'étais un enfant battu en fait.
D'accord.
Et si vous voulez, alors je vais vous faire très simplement la genèse de mon placement pour que vous puissiez comprendre. Et en fait, si vous voulez, c'est moi qui ai dénoncé mes parents en fait par l'intermédiaire d'un maître d'école. Parce que j'avais, j'étais à l'école et il a pu remarquer que j'avais des multiples bleus au niveau des bras et pas forcément très heureux quand j'allais à l'école, si vous voulez.
Oui.
Et donc il m'a demandé de me voir et après l'école, si vous voulez. Et à partir de là, tout s'est enchaîné assez vite, puisque derrière, j'ai été convoqué par l'assistante sociale de l'école. Et donc, je me suis exprimé sur le quotidien que je vivais, en fait. Mmh. Et de là, il y a eu un signalement. Et ensuite, j'ai été au commissariat et puis j'ai déposé une plainte contre mes parents, en fait.
D'accord. On vous a aidé, donc on vous a entouré pour que vous portiez plainte contre vos parents. À cette époque, vous avez été accompagné par l'infirmière ou votre maître d'école, ou comment ça s'est-il passé?
Par le maître d'école, oui.
D'accord.
Et ensuite, il y a eu le processus de l'assistante sociale avec qui j'ai eu plusieurs rendez-vous sur une semaine, si vous voulez,
oui,
pour savoir si mes propos étaient bien avérés ou pas. Et suite à ça, une enquête de leur service, ils en ont conclu que je mentais pas, si vous voulez. Et mes parents, suite à ma dénonciation, ont été mis en garde à vue suite à ça, quoi.
D'accord. Donc de là, en fait, vous avez été placé.
Oui.
Et vous avez été placé dans un foyer dans un premier temps.
Dans un premier temps, j'ai été placé dans un FDE, un foyer départemental de l'enfance.
Oui.
C'est typiquement le genre de structure qui accueille ce qu'on appelle des nouvelles recrues, quoi. C'est un peu péjoratif à dire, mais c'est le terme.
Qui vous appelle les nouvelles recrues, en fait? Il vient d'où ce terme-là?
D'une éducatrice qui m'avait accueilli, en fait,
oui,
tout simplement.
Mmh.
Et ça m'a fait drôle d'entendre ce terme-là. Alors, même si j'avais que 9-10 ans à l'époque, j'avais une forme de maturité et j'étais dans la capacité de comprendre des mots. Et celui-là m'est resté ancré dans ma mémoire jusqu'à maintenant et pour toujours, quoi.
Oui, oui. C'est assez curieux, en plus, comme terme, c'est... nouvelle recrue.
C'est Oui, c'est assez froid à entendre et, oui, et à caissier en même temps. Je veux dire, c'est pas anodin, quoi. Je veux dire, vous prenez pas ce type de propos à la légère, même si vous avez 10 ans, ce qui était mon cas à l'époque, quoi.
Mmh.
Et donc, s'en est suivi, mes premières minutes au foyer départemental de l'enfance ont été bizarres, dans la mesure où j'avais l'impression d'arriver dans un autre monde de souffrance, mais littéralement, quoi. C'est-à-dire que il y avait plein de jeunes de mon âge, si vous voulez.
Oui.
Et c'était comment vous expliquer simplement, c'est
peut-être perceviez-vous, il y avait comme, c'était l'ambiance des lieux, en tout cas quelque chose de l'ordre des vibrations du lieu qui vous renvoyait cette souffrance.
Ouais, déjà le brouhaha, ce qui m'a marqué dans un premier temps, Et c'était des cris, c'était des... Enfin, c'était un univers enfin, que je ne connaissais pas et que j'étais amené à découvrir.
Oui.
Et c'était assez glaçant, si vous voulez. Et derrière, ce qui m'a d'emblée un peu marqué aussi, c'est les éducateurs qui comment... j'ai pas envie d'être péjoratif, mais ils étaient un peu je m'en foutiste, vous voyez.
Oui, je vois, il y avait dans leur attitude comme une répétition, on est habitué, encore
voilà,
un nouveau
exactement.
Gamin qui arrive, et vous, le monde, je suppose qu'à 9 ans, quand on est placé, même si on est battu, quelque part le monde s'écroule, en tout cas une partie de son monde s'écroule, et on a envie,
absolument,
on a envie d'être rassuré, on a envie de, dans ce nouveau monde qu'on découvre, pouvoir s'appuyer sur peut-être un regard ou des gestes qui vous rassurent. Or, là, vous décrivez peut-être ça, cette espèce de routine qui fait que vous êtes là et vous n'êtes qu'un objet. C'est un peu ça que vous avez senti.
Oui, voilà. Oui, voilà, c'est exactement ça. Peut-être une bouche de plus à nourrir ou,
mm-hmm.
Ou
une nouvelle recrue.
De plus à se... Ouais, voilà, c'est ça. Et vraiment, le terme... Je vous rassure, je ne l'invente pas, c'est vraiment...
Non, moi j'entends.
À mon arrivée.
Ouais. Alors, comment ça s'est passé, les jours suivants?
Alors, les jours suivants, l'adaptation a été très difficile, hein, parce que moi, l'éducatrice qui m'avait emmené dans ce foyer départemental de l'enfance, je n'avais aucun habit, si vous voulez. Et de par ma dénonciation que j'ai faite à l'égard de mes parents, il y a eu ça a été compliqué de la communication entre l'éducatrice et mes parents, si vous voulez.
Oui.
Parce que eux, ils n'arrêtaient pas, enfin, ils avaient du mal un peu à admettre que
j'ai percé
Oui, voilà.
Ouais.
Et du coup, pour récupérer ne serait-ce que mes habits à moi, ça a été assez long quand même. Ensuite, je crois, un mois après mon placement, j'ai vu le juge pour enfants qui derrière a ordonné mon placement. Et s'ensuit derrière que j'ai découvert une nouvelle structure. Parce que il faut savoir que dans ce type de structure, on y reste rarement longtemps, si vous voulez. Je crois qu'à l'époque où j'y étais, on parlait d'une phase de 6 mois maximum, quoi.
Mmh. Et pourquoi, et donc, en fait, pourquoi vous le savez ou...
Très honnêtement, j'en sais rien du tout.
D'accord.
Et puis avec le recul, j'ai jamais trop cherché à comprendre pourquoi. Et derrière, j'ai atterri dans une autre structure. J'étais le cadet de la structure qui à l'époque a accueilli plus de 60 jeunes. Donc c'était vraiment une très grosse structure éparpillée sur plusieurs pavillons. Et donc, à partir de là, on apprend, on voit tous les vices, en fait, des éducs, des chefs de service, et même de
l'aide sociale à
l'enfance, en fait. Non, pas des pensionnaires, parce que, entre pensionnaires, je vais peut-être vous dire une chose qui va étonner beaucoup de monde, mais il y a une vraie fraternité qui règne entre nous, en fait.
Oui.
Il y a une vraie communion et je crois que c'est l'appel de la souffrance qui nous unit dans cette fraternité et dans cette unité-là, si vous voulez. Et c'est ce qui m'avait beaucoup touché en arrivant dans cette nouvelle structure, d'ailleurs. C'est que, alors, il y avait forcément au début des brimades, on vous teste, etc. Mais derrière, on mange ensemble, enfin on vit ensemble et on respire ensemble. C'est un peu ça le code de cette structure, enfin entre pensionnaires en tout cas. Mmh.
Et donc, le danger, ou en tout cas, enfin, j'appelle ça le danger, mais vous parlez d'un comportement agressif des éducateurs, des...
C'est pas tellement agressif. C'est que pour beaucoup de jeunes, on avait le sentiment que les éducs venaient uniquement pour faire leurs horaires, en fait. Parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement, en fait, scolaire, dans l'idée de renouer des liens avec la famille. Il n'y avait pas ce projet-là qui puisse vous permettre d'aller mieux, en tout cas dans votre souffrance à vous.
Oui. Oui, il y avait comme ce que vous aviez détecté le premier jour à votre arrivée.
Oui, exactement. Oui.
Cette espèce d'attitude de... Oui, faire ses heures, en fait, ça traduit bien... L'état d'esprit, en fait. C'est un métier où bien évidemment, on doit dépasser justement le fait de faire ses heures. C'est un métier qui demande beaucoup d'attention vis-à-vis des enfants et des ados qui sont là. Hein.
En théorie.
En théorie, oui.
Après, ceci étant, mon but, il n'est pas de cracher sur les gens aussi facilement, si vous voulez, parce que dans ce milieu-là, je parle des éducateurs. Hein.
Oui.
Y a vraiment des gens formidables. Et encore, le mot est vraiment très faible. Parce que j'ai vu des gens durant 11 ans qui étaient investis de la tête aux pieds. Et vous le transmettez, que vous n'étiez pas simplement un jeune avec un sac de problèmes, un sac de souffrance, si vous voulez. Et si y en a un de deux qui me reconnaît, j'aimerais simplement les remercier du moins et pour tout ce qu'ils m'ont apporté, quoi.
Oui, parce que il doit obligatoirement y avoir des gens qui ont une vraie vocation dans ce métier. Je pense au film Pupille, vous l'avez peut-être vu.
Pas du tout, ça ne me dit rien.
Alors, je vous conseille de le regarder, parce que c'est un film formidable et qu'il traite, justement de l'aide à l'enfance, côté éducateur, beaucoup, et on voit l'investissement et la vocation de certains éducateurs qui, eux-mêmes, bien évidemment, aussi sont confrontés à ce dont vous parlez, à cette machine. Parce que c'est une bien grosse machine, hein, l'ASE. C'est une machine difficile à faire marcher. Et comme chaque administration qui connaît des complications, sauf que là, on s'occupe d'enfants, on s'occupe de vie, on s'occupe de ces enfants dont on a la responsabilité momentanée de faire grandir, de faire pousser et d'éduquer au mieux, alors à travers ces foyers ou à travers ces placements. Et il est vrai que on a entendu beaucoup de choses sur ces foyers. Moi, je n'ai pas vu le reportage d'M6 dimanche dernier, mais j'ai souvenir, il y a un an et demi à peu près, d'un pièce à conviction sur France 3 qui avait fait beaucoup, beaucoup de bruit sur justement le traitement qui était réservé aux gamins dans certains foyers.
Alors, juste pour faire une parenthèse sur ces reportages, ce qui m'agace, c'est ce que j'ai exprimé à votre collaborateur tout à l'heure, à Natacha, je crois, ou à Florian, je ne sais plus bien, qui sont adorables au passage. Mais pour revenir sur ces reportages, c'est que ce qui me révolte vraiment, et je tiens vraiment à le dire...
Allez-y, vous êtes là pour ça.
Ce qui me révolte, c'est que ça fait énormément de bruit. Mais il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup de propos, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, et au final, il n'y a rien qui bouge, quoi. Et ce reportage-là sur M6 m'a réconforté dans cette cet avis qui est pour moi nauséabond, quoi. Parce que au jour d'aujourd'hui, on se rend pas compte de la souffrance, et je parle vraiment de souffrance. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnalités qui vivent des souffrances hors des foyers, si vous voulez. J'en suis conscient, j'ai eu le bonheur et le privilège d'en rencontrer, que ce soit à l'étranger ou même de par mes déplacements, si vous voulez. Mais il faudrait vraiment que les instances se bougent les fesses pour donner un cadre beaucoup plus éducatif, beaucoup plus pédagogique, et qu'ils accompagnent au mieux un enfant de l'aide sociale à l'enfance. C'est important à mes yeux.
Parce que pour vous, en fait, Kevin, ce passage dans ces foyers vous a abîmé?
Ben, c'est pas qu'il m'a abîmé, c'est que il m'a permis d'être l'homme que je suis au jour d'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu et entendu énormément de souffrance. Enfin, vous avez même pas idée de ce que peut vivre des gamins. Enfin, à l'époque, hein, on était des gamins. Les souffrances familiaux qui sont liées à la disparition, à tout ces tas de choses. Et moi, si vous voulez, je considère que la vie, c'est une question de choix. Vous avez, j'aurais très bien pu avoir le choix de faiblir et de céder à la fatalité. Et j'ai eu le choix de prendre tout le monde à contre-courant et de tordre cette fatalité, et puis avancer avec mes carences, mais en ayant l'esprit de devenir meilleur qu'hier, quoi.
Oui, je suis là, je vous écoute. Je pensais que vous alliez continuer. Pardonnez-moi, je vous écoute.
Non, mais je vous laisse aussi parler.
Je vous écoute. Je sais, en fait, qu'aujourd'hui, les avis sont très partagés. Il y a, je pense à un jeune homme qui s'appelle Lies, qui a écrit un livre qui a dû sortir il y a un an et demi, deux ans.
Oui.
Sur les familles d'accueil qui relate vraiment des choses innommables qu'il a vécu. Et à côté de ça, vous avez l'ancien international rugbyman Pascal, j'ai oublié son nom de famille, mais qui est un rugbyman qui évoque lui sa famille d'accueil qui sont ses parents aujourd'hui. Et vous voyez, les avis sont très partagés, sauf sur les foyers. Pascal Bappé, qui a écrit un livre aussi, Bappé, pardonnez-moi.
Bappé, oui.
Et donc, par contre, sur ces foyers, il semble y avoir de gros soucis sur ces foyers, en fait.
C'est une certitude. Et puis, c'est criant, quoi. Moi, sur toutes les structures que j'ai pu faire, j'en ai fait en tout et pour tout à peu près une dizaine. Plus d'une dizaine. Et c'est le même constat. Enfin, je veux dire, c'est triste à dire, mais il n'y a pas une structure qui en rattrape une autre, en fait. Parce que le fondement, au final, il est pareil. C'est que je vais peut-être faire preuve d'égoïsme, mais je vais parler de ma propre expérience à moi.
Oui.
Par exemple, moi, enfin, ce placement, il a été douloureux dans la mesure où, à l'entrée du collège, eh ben, j'étais déscolarisé en fait, parce que à l'époque, enfin, j'avais un collège qui était juste en face de ma structure. Et d'emblée, j'étais catalogué de cassos parce que je venais d'un foyer. C'est malheureux à dire, mais c'était le cas. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas accepté, enfin, qu'on puisse me traiter de la sorte par rapport du milieu dans lequel je vivais au présent, si vous voulez. Et j'ai du jour au lendemain, j'ai décidé de plus retourner à l'école. Et suite à ça, aucun éducateur, enfin, ou du moins très peu, m'a donné l'envie d'y retourner. Et du coup, à l'âge de 11-12 ans, enfin, j'étais en errance, en fait. C'est-à-dire que j'allais dans la rue sans but.
Et
Et tout le temps.
on vous laissait sortir comme ça? Ou vous faisiez
Bien
croire que
sûr.
vous alliez à l'école?
Pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est il y a certaines structures qui marchent comme ça, Olivier. C'est que le matin, que vous ayez un projet ou pas du tout, à savoir l'école ou un stage ou un apprentissage ou quelconque, que vous ayez tout ça ou pas, à 9 h, vous êtes dehors.
D'accord.
Jusqu'à midi, parce que, enfin, on a quand même le droit de manger. Et l'après-midi, rebelote, c'est 13 h 30 jusqu'à 17 h dehors.
Oui, ce qui est totalement anormal, puisque la mission pour des mineurs et des enfants dits en danger, en situation de danger, hein, puisque voilà, vous avez été placé, vous, pour des violences, c'est de faire attention. On va continuer à évoquer votre histoire, Kevin, si vous le voulez bien. On
Oui.
marque une pause, on écoute le flash, les infos sur Europe, et puis on se retrouve tout de suite après, d'accord?
D'accord,
À tout de
Olivier.
suite. – 23 h passées de 3 minutes et vous êtes sur votre radio, sur Europe 1, et c'est votre libre antenne qui vous accompagne jusqu'à 1 h du matin. Nous sommes avec Kevin qui évoque ce soir la vie dans les foyers de l'enfance, ces foyers où les enfants qui sont en situation de danger dans leur famille sont placés. Kevin a été placé à l'âge de 9 ans. Suite à des mauvais traitements, Kevin était un enfant battu. Et suite au signalement fait par son maître d'école, Kevin a été placé dans un foyer et nous a raconté dans la première partie de cette émission avoir vécu et erré dans ces foyers où régnait une espèce d'omerta sur la mission qui était celle des éducateurs et que, voilà, on en était, Kevin, à. Vous évoquiez le fait que vous n'alliez plus à l'école dès l'âge de 12 ans et que vous étiez totalement livré à vous-même, ce qui paraît
Exactement.
totalement incroyable. Parce que la mission, elle n'est sûrement pas celle-là.
Absolument pas. Et c'est monnaie courante. Enfin, à mon époque, c'était monnaie courante. À savoir que ben les jeunes qui n'allaient pas à l'école, en général, enfin, généralement, on se retrouvait dans un parc juste à tuer le temps, en fait. Dans un parc ou dans un autre lieu, hein.
Oui.
Mais l'idée, c'était vraiment de tuer le temps et de ne pas penser à nos problèmes perso. Et c'était difficile parce que lorsque vous voyez, enfin, des jeunes de votre âge qui ont un sac à dos, c'est tout bête, un sac à dos, mais qui rentrent et qui sortent de l'école, vous vous dites que, enfin, c'est pas normal. Enfin, le schéma que je suis en train de prendre n'est pas normal.
Oui.
Et pourtant, derrière, je me suis pas senti aidé, en fait, clairement. Je me suis pas senti non plus renié, si vous voulez, mais à aucun moment un éducateur m'a expliqué l'importance de l'école.
Mais à quoi vous rattachez cela, en fait ? Parce que ça n'est pas la première fois qu'on entend une voix comme la vôtre évoquer cette mission qui n'est pas assurée par certains éducateurs. Et aussi, on l'abordera aussi avec vous, à l'âge de 18 ans, une administration qui lâche ses enfants. Alors aujourd'hui, pas tous aujourd'hui, parce que beaucoup d'ASE accompagnent maintenant, mais continuent aussi de lâcher pas mal de gamins, parce qu'à 18 ans, on est encore un gamin dans la nature. Et il faut savoir que 2 SDF sur 3 aujourd'hui sont issus de l'ASE. Quand vous croisez des personnes dans la rue, il s'agit souvent d'ex-enfants placés. Parce qu'ils ont été lâchés à 18 ans, comme ça. Voilà. Maintenant, tu as 18 ans, tu te débrouilles.
J'y reviendrai un peu plus tard dans mon témoignage, mais je suis également passé par la rue, en fait.
Vous êtes passé par la rue, d'accord.
Je vais y revenir un peu plus tard. Mais pour continuer mon récit, au-delà de cette errance, il y a eu un double effet marquant qui, là, pour le coup, a littéralement bouleversé mon cheminement. C'est que un jour d'été, j'étais amené à revoir mes parents. Et à la base, moi, je ne voulais pas y aller. Parce que il y avait eu très très peu de contacts et quand vous n'avez pas d'explication au mal qu'on vous a fait, tout en sachant qu'à 12 ans, à l'époque j'avais 12 ans au moment de cette période. Vous êtes en état de pouvoir entendre et aussi comprendre les choses. Donc moi, j'étais parti dans un but tant que j'aurais pas eu d'explication vis-à-vis des coups que mes parents m'ont portés. Il n'était pas envisageable pour moi de renouer des liens. Mais par la force des choses, j'étais amené à revoir mes parents. Et donc, un après-midi plutôt, m'emmène chez moi pour avoir une discussion à ma demande avec mes parents, si vous voulez. Et s'ensuit une très, très grosse dispute verbale avec mon père.
Quel âge aviez-vous, là?
À cette époque, j'avais 12 ans.
12 ans, d'accord.
Oui. J'ai eu une très, très grosse dispute avec mon papa. Excusez-moi, je suis un peu ému. Et si vous voulez, lui a eu le courage de me dire qu'il avait fauté, qu'il n'avait pas été un père responsable, ni un père aimant. Et ce qui a eu le don de fortement me toucher, en fait, comme je le suis encore au jour d'aujourd'hui. Et derrière ça, ma génitrice, elle est restée complètement indifférente à notre échange.
Vous voulez dire votre mère, ensuite, donc, votre mère ?
Ma génitrice.
Oui, d'accord.
Vous comprendrez pourquoi je l'appelle ainsi. Et c'est à ce moment-là, on m'a laissé avec mes parents. Et c'était les premiers mots. Pardon. C'était les premiers mots de tendresse que mon papa m'a laissé. Et le lendemain, J'entends un cri assourdissant dans la salle à manger. Et c'est le cri de ma génitrice. Et là, je découvre avec stupeur mon papa avec les yeux révulsés en arrière et le crâne partiellement bleu. Et j'ai compris d'emblée qu'il se passait quelque chose d'anormal. Quoi, j'en étais pas en mesure, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et instantanément, j'ai pris le combiné pour appeler les urgences. Mais quand vous voyez votre père avec qui vous êtes pris la tête verbalement la veille, le voir dans cet état-là, ça m'a franchement bouleversé.
Oui.
Et après, une fois que j'ai composé le numéro des urgences, il m'était impossible d'expliquer l'inexplicable à un interlocuteur étranger. Donc j'ai passé le combiné à ma génitrice et je suis resté aux côtés de mon père. Et j'ai ressenti peu à peu qu'il n'y avait plus de vie en lui. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de mourir, en fait. Et que tout ça, je le voyais de mes propres yeux. Et ensuite, fort heureusement, les urgences, le médecin, les urgences sont arrivées très rapidement, dans l'espace de 5 à 10 minutes, je crois. Un quart d'heure ou 20 minutes plus tard, j'ai un monsieur en blanc qui vient vers moi et qui me dit que j'ai eu beaucoup de courage et que mon papa pouvait être fier de moi. Et cette sympathie m'était complètement égale. Je voulais savoir si mon père aller reprendre ses facultés, etc. Et il m'a rien dit, mais j'ai perçu dans son regard qu'il n'y avait plus rien à faire. Et au moment où ils ont transporté mon père, il était tout branché, etc. Et une fois qu'il a quitté l'appartement familial, j'ai compris que je le reverrais plus vivant. Et ma génitrice qui était dans la cuisine, et moi je me trouvais vraiment entre l'angle de la salle à manger et puis de la cuisine, m'a été indifférente envers ma souffrance. Après, j'imaginais aussi qu'elle pouvait, je pouvais comprendre aussi qu'elle elle puisse souffrir aussi de ce qui se passait là. Et donc, une heure après qu'il soit parti, on a eu la confirmation que mon père était décédé d'un infarctus. Et je me suis rendu compte que je l'ai vu mourir. Et excusez-moi, je suis un peu ému.
Et, je vous en prie.
Et suite à ça, donc, en théorie, je devais repartir au foyer, mais même s'il y avait... de l'indifférence de ma génitrice à mon égard, je ne me voyais pas partir comme ça. C'est quelque chose me disait qu'il fallait que je reste au moins jusqu'au bout pour l'accompagner jusqu'au bout. Et donc, j'ai laissé ma génitrice faire ce qu'elle avait à faire. Parce que derrière, il y avait j'ai deux frangines derrière. Donc, il fallait quelqu'un pour les garder. Donc, voilà. Et deux jours après, on arrive aux obsèques. Et toujours dans l'indifférence de ma génitrice. Et j'ai eu l'apaisement de mon directeur de ma structure qui m'a soutenu par des mots bienveillants. Et Il m'avait promis qu'il enverrait une éducatrice et puis la psychologue du centre pour venir m'épauler lors des obsèques, ce qui a été fait. Ensuite, s'ensuit les obsèques classiques, j'ai envie de vous dire, enfin avec la famille, etc. Et forcément, moi, j'étais mal perçu puisque même durant ces terribles moments, on me reprochait encore que j'avais mis mes parents en garde à vue et que je les avais dénoncés pour le mal qu'ils m'ont fait finalement. Et ça, du côté de ma famille, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma génitrice, on me l'a jamais pardonné. Et on me l'a fait clairement ressentir à ce moment-là. Et puis...
J'espère pour vous que aujourd'hui tout ça est réglé, que vous savez combien vous avez fait ce qu'il fallait faire à l'époque. Hein.
Bien sûr. Je vous dis ça, enfin, même si je suis ému là au moment où je vous parle, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier qui reste vif, mine de rien,
bien
mais
sûr,
ça ne m'a pas empêché d'avancer dans ma vie d'homme. Mmh. Et ensuite, un deuxième drame arrive, c'est que une fois qu'on revient dans l'appartement familial, après ça a été vraiment une journée terrible. Jusqu'au bout, j'ai envie de vous dire, après la cérémonie, etc., j'ai ma génitrice qui était tellement silencieuse, tellement distante à mon égard durant cette journée-là. Elle a commencé à préparer mes affaires. Elle m'a dit, maintenant, il faut que je te parle. Et elle m'a dit, je t'ai jamais voulu. Pour moi, t'es qu'un accident. Et je regrette ta venue au monde. Ces mots textos. Je les invente pas, ce sont ces mots. Et à partir de là, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir. Et à partir de ce moment-là, elle a appelé mon foyer, elle a mis mon sac devant la porte, et puis elle a fermé la porte. Et c'est l'un des derniers instants, enfin, moment de ma vie que j'ai pu voir ma génitrice. Et en l'espace en fait de 2-3 jours, en fait, je suis passé de l'espérance à la destruction.
Mmh. D'un début de pardon aussi à votre père, j'ai envie de dire.
Bien sûr. Et dans mon cœur, enfin, je lui ai, enfin, à l'énoncé de ces mots, enfin, lorsqu'il m'a, qui m'a pris dans ses bras, parce que mon père, à la base, ne m'a jamais pris dans ses bras, ne m'a jamais dit « je t'aime », il ne m'a jamais dit qu'il était fier de moi. Et c'est la veille qui m'a dit ça. Avec le recul, je me suis dit que peut-être qu'il le sentait tout ça et qu'il voulait
réparer.
Partir la conscience tranquille, j'en sais rien. Mmh. Et c'est un peu ça. Et à mon retour dans le foyer, j'ai eu la surprise d'avoir été... parce que, bien évidemment, ça avait vite fait le tour que j'avais perdu mon papa. Et à ma grande surprise, mes frères de galère, c'est... il n'y a pas d'autre mot, ils ont été d'une aide exceptionnelle et incroyable. C'est à 12 ans, lorsque vous perdez tout, vous vous dites que vous avez encore un socle de fraternité, un socle de vie auquel vous retenir. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a permis d'exister encore et de croire que... tout m'était pas amputé en si peu de temps, quoi. Mmh.
En tout cas, à ce moment-là, vous avez aussi sans doute réalisé que il y avait une autre famille, une autre forme de famille, un autre schéma de famille, mais oui. Que vos frères de galère, comme vous les appelez, c'était oui. c'était sur cette famille-là que vous alliez devoir sans doute vous appuyer. On va marquer une pause, Kevin, et on se retrouve tout de suite. À tout de suite.
D'accord, merci.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h23, nous sommes avec Kevin. Kevin, vous évoquiez donc le retour au foyer avec vos frères de galère, cette famille, en fait. Oui. Cette vraie famille. Et on va évoquer pour la dernière partie de votre témoignage la suite, les foyers jusqu'à votre majorité, en fait.
Oui. Entre-temps, j'ai fait 3 familles d'accueil, mais voilà.
Alors, je dois préciser tout de même que nous ne faisons pas les raccourcis sur les foyers, parce que nous avons eu un SMS d'une éducatrice qui s'appelle Mathilde, et Christelle, pardon, elle s'appelle Christelle. Et je tiens à lui dire que, bien évidemment, si elle a raté le début de l'émission, nous avons souligné que dans ces foyers, il y avait aussi des éducateurs dont la vocation était à souligner. Et
je l'ai dit au début de mon témoignage.
Oui, c'est pour ça que je le précise, en fait. On ne fait pas de raccourcis ni d'amalgame, mais il est vrai que beaucoup de livres ainsi que de reportages visent souvent ces foyers et qu'il serait peut-être bon d'y remédier, en fait, comme vous dites, de les réformer et peut-être de changer leur fonctionnement et surtout peut-être la formation de ces éducateurs et leur admission, parce que l'IES, par exemple, évoquait qu'il y avait certains éducateurs dans l'un des foyers où il avait été qui étaient d'anciens pensionnaires qui n'avaient pas vraiment des diplômes adaptés. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu ça, vous aussi, Kevin, mais bon, c'était assez étonnant de savoir que des enfants pouvaient être confiés à des personnes qui n'avaient pratiquement aucun diplôme d'éducateur.
C'est monnaie courante. Enfin, il faut être honnête. Moi, j'ai connu beaucoup de structures qui fonctionnaient ainsi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est qui le disaient eux-mêmes, les élus, les personnes qui venaient, ils le disaient eux-mêmes qu'ils n'étaient pas diplômés, donc c'était pas un secret de polichinelle, quoi.
On peut s'en étonner, en tout cas, lorsqu'il s'agit d'éducation, je le rappelle, de l'éducation de mineurs dits en danger, puisqu'ils sont en situation de danger, de fragilité, les maîtres. Donc, dans les mains de gens qui n'ont pas été formés pour cela, ça peut interroger.
Après,
en tout cas.
Pour faire très court sur le sujet, parfois, il faut être honnête, en tout cas, moi, je vous dis ce que j'en pense, parfois, quelqu'un qui n'est pas diplômé prend beaucoup plus à cœur sa tâche que quelqu'un qui sera passé par l'IRTS, l'école des éducs, qui aura appris toute la théorie, etc. Or qu'un éducateur ou une éducatrice qui n'est pas diplômée va être confrontée d'emblée à ce qui se fait sur le terrain, en fait. Et davantage, elle va être davantage investie dans sa tâche. Et ça, il faut le souligner. Ceci étant, je n'approuve pas forcément, mais je dis simplement que ces gens-là ont la conscience professionnelle, quoi.
On peut en tout cas se dire que cette vocation, parce que je pense que ce sont des métiers vraiment où la vocation est importante.
Oui.
Et que finalement, les meilleurs éducateurs sont ceux qui sont touchés par cette vocation et qui sont habités par cette vocation. Donc, on va marquer une nouvelle pause, Kevin, et on se retrouve tout de suite. Hein ? À tout
D'accord.
de suite.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Si vous nous rejoignez juste maintenant, à 23h29, soyez les bienvenus sur Europe 1, dans votre libre antenne. Nous échangeons avec Kevin ce soir, qui nous parle de sa vie d'enfant placé en foyer et en, famille d'accueil. On va évoquer pour finir, Kevin, cette majorité, en fait, lorsque vous avez eu 18 ans. Comment ça s'est passé pour vous ?
Comment ça s'est passé ? C'est tout simple. Pour avoir le droit au CJM, au contrat jeune majeur, qui est délivré par le préfet, il faut avoir vraiment un projet professionnel béton. Et moi, j'ai eu ce bonheur d'avoir ce projet béton. Et donc, j'ai eu accès à mon contrat de jeune majeur qui a duré durant 2 ans. Et ensuite, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la rue, en fait, tout simplement, quoi. Parce que entre-temps, j'avais perdu mon travail et que derrière, je n'étais plus en mesure je n'étais plus en mesure de m'assumer, quoi, très clairement. Mmh. Et ensuite, j'ai connu la rue. C'est un monde tout aussi effrayant. Et si vous voulez, je m'en suis sorti par le biais d'une ancienne famille d'accueil que j'avais rencontrée à la rue et qui m'a proposé son aide. Et de là, je suis parti dans un foyer d'hébergement. Et à partir de là, j'ai pu me reconstruire et puis de voler de mes propres ailes derrière, quoi.
D'accord. Et aujourd'hui, tout ça est stabilisé ?
Bien sûr, bien sûr. Et heureusement, et après, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Olivier. Je considère que quelles que soient vos souffrances, quel que soit votre vécu, quelles que soient les carences que vous puissiez avoir, je considère, moi en tout cas, que la vie, c'est une question de choix. Mmh. Vous avez le choix de vouloir sombrer ou le choix d'aller au-delà. Et il s'avère que j'ai pris la deuxième option parce que la morale de mon histoire, que j'espère un jour pouvoir mettre sur papier, c'est que... Je ne crois pas à l'idée que, comment vous dire, que j'ai morflé, donc obligatoirement ma vie d'homme doit être un parcours tout aussi chaotique que mon enfance. C'est des choses auxquelles j'ai pas voulu me résigner. Et toujours la tête haute, j'ai toujours voulu aller de l'avant. Au jour d'aujourd'hui, ça me réussit, même si, pour être tout à fait honnête, j'ai des carences d'un point affectif parce que ma génitrice m'a amputé de l'amour qu'elle était censée me donner. Donc forcément, lorsque je rencontre une femme et lorsqu'elle m'avoue ses sentiments, lorsqu'elle m'avoue sa tendresse, j'ai toujours peur
de vous
j'ai
engager.
Toujours la crainte, du moins. Pardon ?
La peur de vous engager.
Pas de m'engager, mais de faire confiance, en fait.
Oui,
vous voyez ?
Oui. Mais ça viendra.
Oui, exactement.
Parce
oui.
qu'avec les choix que vous avez opérés, qui sont les premiers et les bons qui vous concernaient, parce que avant de construire une famille et d'être un bon compagnon, hein, que vous soyez l'épaule forte et paisible sur laquelle viendra se poser la tête de celle qui partagera votre vie et peut-être qui vous donnera des enfants,
exactement.
Il fallait que vous fassiez les choix qui s'imposaient pour vous, pour vous rétablir et pour tenir debout. Et j'ai fortement l'impression que ces étapes-là sont passées et que et que maintenant
c'est
vous
une
allez
force,
pouvoir.
Olivier.
Ouais, c'est une force. Je n'en doute pas.
C'est une vraie force parce que psychologiquement parlant, avec tout ce que j'ai traversé, hein, et je veux pas faire, je veux pas paraître comme un caliméro, mais avec tout ce que j'ai enduré et parcouru. Psychologiquement, je suis blindé, si vous voulez.
Oui, mais vous êtes quand même la preuve. Vous êtes quand même la preuve, Kevin, qu'avec ce que vous avez enduré, les coups, hein, les violences en tant qu'enfant, la violence aussi, la trahison, parce que quand on dit à son enfant que il n'a été qu'un accident et que il n'a pas été voulu, ça va au-delà de la trahison. On voit que malgré tout, vous avez réussi à vous stabiliser, à être quelqu'un qui peut se regarder en face. Et donc, en ça, vous avez raison de dire que la morale de votre histoire, c'est que vous avez dit non à la fatalité qu'on voudrait croire obligatoire quand on a vécu ce que vous avez vécu. Et vous prouvez que, à tous ceux et celles qui nous écoutent, qu'il n'y a pas de fatalité et que lorsqu'on décide, comme Robert hier qui parlait du pardon, le pardon offert aux assassins de son père, et combien
c'est
ça l'avait,
passage, hein.
Oui, ça l'avait porté, et en fait se libérer de la haine, de la colère, et décider de s'élever pour soi. Je pense qu'on peut aussi faire le parallèle entre ce que Robert nous a raconté hier et ce que vous nous avez raconté ce soir. En tout cas, merci Kevin pour votre témoignage. Mille merci.
Merci à vous.
Et puis, portez-vous bien et puis n'hésitez pas à me donner des nouvelles. D'accord ?
Pas de problème. Merci à vous, Olivier.
Merci. Mille merci et courage à vous et bon vent, j'ai envie de vous dire, Kevin.
Merci beaucoup, Olivier.
Bonsoir.
Bonsoir, au revoir.